les lignes rouges parce que, alors, dis jamais jamais, mais la plupart du temps, on peut les faire bouger. C'est mon expérience en tout cas. Donc, on va en parler tout à l'heure de comment on peut faire bouger les lignes rouges, mais d'abord, il faut différencier entre deux types de lignes rouges. Alors, il y a ce type où une partie ne veut pas discuter de certains sujets. Là, c'est un peu plus problématique aux médiations parce qu'en principe, on ne discute pas des choses dont les parties ne sont pas d'accord les deux. Maintenant, les mêmes principes qu'on va énumérer tout à l'heure s'appliquent aussi. C'est aussi des lignes rouges qui bougent d'habitude, qui peuvent en tout cas bouger. Donc, il ne faut pas désespérer tout de suite. Mais si une partie insiste, on ne va pas entamer une discussion sur un sujet sur lequel une partie n'est pas d'accord de discuter. Maintenant, on peut discuter sur le pourquoi, on peut discuter quand même autour de cette liste de thèmes à discuter pendant la médiation. Donc, la ligne, elle peut bouger, mais on ne va pas entrer en matière, en tout cas, pour autant que la partie ne soit pas d'accord. Donc, ça, c'est un des deux types de lignes rouges. L'autre type, c'est quand c'est une ligne rouge dans le sens que un refus de faire compromis. Ma ligne rouge, c'est, je ne sais pas, 10 000 francs ou euros. Ma ligne rouge, c'est la garde principale des enfants. Ma ligne rouge, c'est accès à tel ou tel poste ou responsabilité de tel et tel projet. C'est une ligne rouge. Et on verra tout à l'heure que ce ne sont pas des lignes rouges, mais voilà quelques exemples. Donc, quand les parties sont d'accord de discuter de quelque chose, on entame et puis on verra souvent au début, surtout c'est ça le message, ne désespérez pas qu'on voit, ouh là là, ils sont à des années-lumière les uns des autres, c'est complètement incompatible, etc. Ben, c'est pour ça qu'on fait de la médiation. Ça commence toujours comme ça. Donc voilà, il faut être confiant, il faut faire confiance en notre métier, en la médiation, en le processus, en vous-même en tant que médiateur et médiatrice. Et donc voilà, comment faire? Comment franchir ces types de lignes rouges? Alors, d'abord, il y a des manières que je ne proposerai pas pour la médiation, typiquement de faire jouer la montre en laisse passer du temps, et puis à un certain moment, les gens sont tellement lassés qu'ils sont d'accord de discuter de tout, ce n'est pas une approche de médiation, ou que ça devient trop douloureux, ou que ça devient trop cher, ou que sais-je. En fait, c'est par la force, par la pression que les parties sont d'accord de faire bouger les lignes, ce n'est pas l'idée de la médiation. Donc, on va plutôt parler d'autres manières. Et la première, c'est de comprendre les craintes et les besoins derrière les lignes rouges. Donc, pourquoi quelqu'un ne veut pas bouger? C'est d'ailleurs le principe de base de la médiation, c'est la compréhension de soi-même, l'approfondissement, la prise de conscience. Parlons de soi-même, si j'ai une ligne rouge, mais pourquoi en fait? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette ligne rouge? Et puis aussi vis-à-vis de mieux comprendre mutuellement. Si on prend, je sais pas, un conflit autour du salaire, par exemple, si y a peut-être une augmentation normalement annuelle de salaire, une adaptation au renchérissement ou autre, et puis une année, il n'y en a pas. Et donc, l'employé se dit, mais mince, qu'est-ce qui se passe? Et puis, dans 2 mois, je perdrai mon job. Ou c'est quoi le signal avec ce refus d'augmentation? Alors que peut-être c'est une année particulière où l'entreprise va mal ou que sais-je. Donc en fait, il faut comprendre la peur derrière. Donc c'est si il y a la peur de perdre son job derrière et dans l'autre sens, peut-être la peur de l'employeur d'avoir une année difficile. Il faut comprendre ses peurs, il faut comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ces lignes rouges. Et ça permet ensuite de trouver, parce que typiquement, effectivement, si la ligne rouge, c'est que je veux cette augmentation, non, je ne te la donne pas, là, on va partir sur un des autres points. Mais si c'est, disons, je le veux parce que j'ai peur que ça veut dire que je perdrai mon job, on est sur autre chose, hein. Donc là, on peut peut-être dissiper la crainte et il y aura peut-être une double augmentation dans 6 mois ou dans une année qui peut être mise en perspective. Et donc, la ligne rouge de refuser la non-augmentation, cette ligne-là, et là, elle peut bouger. Donc, comprendre les craintes et les besoins derrière cette ligne rouge. Ensuite, on peut reformuler autrement le problème de base. Si vous avez, par exemple, deux associés, qui sont en conflit autour de la direction stratégique à prendre. Alors, il y a peut-être l'un, il a un regard purement financier, donc si les deux, ils veulent aller dans deux sens différents, peut-être incompatibles, il y a un qui a un regard plus financier de la chose et l'autre, il a un regard plus technique. Donc, l'un, il fait attention aux finances. L'autre, il fait attention à qu'est-ce qu'on offre, qu'est-ce qu'on a proposé en tant qu'entreprise, des solutions techniques qu'on peut apporter ou ne pas apporter. Et dès qu'on reformule autrement le problème de base, donc peut-être les deux, ils peuvent se dire, OK, plutôt que de regarder finances ou regarder possibilités techniques ou l'offre, je regarde, par exemple, besoin du marché. On va faire une analyse de marché. Et puis on va, ce qui est d'ailleurs toujours un mieux en tant qu'entrepreneur, on va fonctionner en fonction des besoins du marché plutôt qu'avoir une approche financière ou technique. Et tout d'un coup, on a une nouvelle manière de voir la chose et puis les lignes rouges ont carrément disparu dans ce cas-là. Ensuite, un troisième point, c'est d'élargir le gâteau. C'est ce que personnellement j'aime le plus, c'est toujours très beau. Pas toujours aussi facile, hein. On a fait une vidéo là-dessus. Je vous invite à la visualiser aussi. Comment faire élargir le gâteau en situation de conflit ou de négociation. Si vous avez, allez, on va dire, un héritage, un bien immobilier et les parties sont en désaccord, les uns ils veulent absolument vendre. Non, c'est la ligne rouge. Il faut vendre. J'ai besoin d'argent. Et puis l'autre, il veut pas le vendre, il veut le garder. Il veut, je sais pas quoi. Donc, élargir le gâteau, ça voudrait dire peut-être il y a possibilité d'investir ou en tout cas de transformer ce bien immobilier qui ensuite prendra de la valeur et qui va permettre de louer. Peut-être c'est je dis comme ça une ferme qu'on peut transformer en trois appartements et puis finalement tout le monde est gagnant. Donc finalement on a élargi le gâteau. Plutôt que vendre un montant X, la nouvelle valeur ça sera 2X ou 3X ou que sais-je. Et puis le maintien dans possession familiale est aussi assuré. Donc on a élargi le gâteau. Ensuite, un autre point pour faire bouger les lignes rouges, ça serait de mieux comprendre, de mieux voir les bénéfices en fait d'avoir un résultat. Parce que si on fait la balance entre ce que j'ai à gagner ou ce que j'ai à perdre, si on fait une analyse BATNA-WATNA, donc BATNA ça veut dire Best Alternative to a Negotiated Agreement, donc la meilleure alternative à une solution négociée, qu'est-ce que j'ai à gagner? Quelle est la meilleure alternative si on ne réussit pas la négociation? Ou quelle est la pire alternative, le WATNA, le Worst Alternative to a Negotiated Agreement? Et puis, dans beaucoup de cas, on va voir que ce soit la pire de toute façon, ou même la meilleure alternative, elle est toujours moins bonne que ce qu'on peut négocier. Et donc, en fait, on commence à voir les bénéfices d'un résultat de négociation, parce que tout le monde, finalement, on a gagné. Et puis, on peut mettre un terme rapidement au conflit. On rajoute quelques séances de négociation, de médiation, et puis en un mois ou 2 mois, l'affaire sera réglée et puis on oublie, il n'y a plus de casse-tête, il n'y a plus tout ça. Et donc tout d'un coup, les lignes rouges peuvent bouger. Il y a aussi toute la question de la confiance entre parties, parce que si vous n'avez pas confiance, vous avez peur, vous faites plein de films, et puis de toute façon, vous avez des lignes rouges très très rouges et très très dures, et c'est impossible de les faire bouger. Maintenant, ce qu'on fait aux médiations, c'est le gain de confiance mutuelle. C'est très important pour trouver des solutions. Il y a toujours l'élément de gagner un minimum de confiance entre les parties, ce qui permet de réaliser les résultats, les solutions qu'on trouve au conflit. Si on prend un exemple de garde des enfants entre deux parties, qui peut-être, c'est pas des exceptions, hein, que des couples qui se parlent plus depuis plusieurs mois. Et c'est un divorce, une séparation très conflictuelle. Il n'y a plus de confiance. Donc, les enfants, c'est moi qui garde les enfants, respectivement l'autre qui dit la même chose. Et c'est une ligne rouge. Alors que si dans une, et ça, c'est vraiment de l'expérience souvent, souvent vécue, quand on comprend mieux l'autre, on discute, et puis la médiation prend un certain temps, ça permet de faire réinstaurer un minimum de confiance. Qui permet que plutôt qu'une garde exclusive, exclusive, exclusive en rouge foncé, que ça devienne quelque chose d'un peu plus souple. Donc, c'est le gain de confiance pour faire bouger les lignes rouges. Et puis, un autre point que je voulais encore ajouter, évidemment, sans être exclusif, mais pour vous donner quelques idées, quelques pistes, c'est toute la question du timing, de la maturité du conflit. Parfois, un conflit doit être mûr pour être résolu. S'il n'est pas mûr, on ne peut pas l'aborder. D'ailleurs, la notion du temps autour de la résolution des conflits est très importante. Je ferai une fois une vidéo là-dessus. Si vous avez un conflit autour d'un contrat entre deux entreprises, deux associés, ou peu importe, même dans le privé, voilà, c'est la ligne rouge sur un délai. Voilà, c'est ça le délai du projet. Il faut absolument tenir. Nous, on ne peut pas, c'est une ligne rouge, on ne peut pas bouger. Et puis avec le temps, la maturité du conflit, évidemment, en parallèle, la confiance qui s'installe, c'est le point précédent. Donc, c'est le timing, ces conflits deviennent plus mûrs et peut-être aussi les priorités vont un peu ailleurs. Et puis, tout d'un coup, avec les bénéfices aussi qu'on voit dans le sens de résoudre enfin ce casse-tête, c'est aussi le timing qui joue un rôle important pour faire bouger les lignes rouges. Voilà quelques idées. Je résume en deux mots. Donc, il faut comprendre les craintes et les besoins derrière les lignes rouges. C'est ce qui permet de les faire bouger parce qu'on peut peut-être réaliser autrement ces besoins-là ou au moins partiellement, ce qui permet d'adoucir ces lignes. C'est de reformuler ou de voir carrément autrement le problème de base, d'avoir une autre approche de comprendre le problème. C'est d'élargir le gâteau. De voir les bénéfices dans une solution négociée, le gain de confiance et le timing, la maturité du conflit. Voilà quelques idées pour faire bouger les lignes rouges. Alors, si je peux tirer une conclusion de mes expériences, c'est que les lignes rouges sont quasi jamais des lignes rouges. Elles bougent toujours. Donc, ne désespérez pas quand vous avez des lignes rouges en matière de médiation, quand vous dites on ne va jamais y arriver. Il faut continuer, il faut aborder et dans la plupart des temps, d'ailleurs, le taux de réussite de la médiation, c'est à peu près 80%. Donc, ça montre bien. Et puis, au début, ils viennent avec des lignes rouges, sinon ils ne venaient pas en médiation. Si tout était clair, s'il n'y avait pas de lignes rouges. Donc, dans 80% des cas, les lignes rouges, elles bougent. Voilà. Merci pour votre attention. Abonnez-vous à la chaîne et puis faites-nous des commentaires, partagez vos avis là-dessus. Merci beaucoup.